Bertrand Dulst, tu es donc à la communauté des communes technicien s'agissant donc de l'énergie renouvelable. Et ici, lors de cette assemblée générale de l'ASA, des propriétaires privés de bois en Soule, tu as fait un petit peu le point sur l'énergie bois en Soule. Donc, il y a à côté, il y a déjà des chaudières qui sont en route.
Oui, alors à Gotin, il y a des chaudières qui sont en route. Il y a deux chaudières d'ailleurs à Gotin, parce qu'il y a le Château Libérinx qui a une chaudière donc qui utilise du bois énergie. Et puis sur la nouvelle pépinière d'entreprise, eh bien c'est aussi donc du bois énergie qui permet donc de chauffer les bureaux et les deux ateliers de pépinière. Donc c'est le choix en fait d'utiliser des énergies renouvelables locales qui ont été faites pour ces bâtiments-là. Oui.
Compte tenu de cette réalité-là, du bois qui est disponible en Soule, quelle est la part que pourrait fournir le bois sur une autonomie énergétique en Soule?
Les besoins évalués sur la Soule oscilleraient, alors ça dépend quel type de projet on prend, hein, les projets industriels ou les projets en tout cas des bâtiments publics, on oscillerait entre 2000 et 4000 tonnes de bois annuel. Ça c'est le besoin, souletin. Ça représente des éclaircies en forêt, ça représente ramasser donc les bois qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon. Hein. Aujourd'hui donc il y a du bois disponible, 60 hectares d'éclaircies pour pouvoir fournir 2000 tonnes de bois. Je pense que 60 hectares d'éclaircies, ça peut se faire aujourd'hui sans souci, et c'est ce qui permettrait eh bien, de fournir en termes de plaquettes forestières pour les besoins souletins, quoi.
Quand tu parles du besoin sur le thème, pour éclaircir un peu, c'est les besoins de entreprises et structures publiques ou même particuliers.
Alors aujourd'hui, quand on a commencé à travailler sur la filière, on a commencé à travailler en particulier sur les besoins des bâtiments publics. Parce que là-dessus, on a la main sur les consommations, sur la façon dont on pourra donc approvisionner en termes donc d'énergie ces bâtiments-là. Mais on peut très bien envisager aussi d'inscrire dans ces réseaux de chaleur ou en tout cas dans les études concernant donc l'usage du bois énergie, eh bien des privés qui sont des projets plutôt structurants, donc des gros consommateurs. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être aussi des écoles, ça peut être aussi des hôpitaux. Ça peut être aussi des bâtiments communaux comme la mairie, comme ça peut être différents donc bâtiments qui vont structurer en fait cette filière bois énergie. Et ensuite, eh bien, ça permettra d'avoir une offre locale pour d'autres projets, qui soient des projets, même des projets individuels, qui pourront eh bien, venir se fournir en plaquettes forestières sur une plateforme qui serait dédiée à ça.
D'accord. En sachant, d'après ce que tu nous as expliqué, que, indépendamment de toute l'infrastructure qu'il faut pour mettre en place cette énergie du bois, soit chez le particulier ou soit ailleurs, entreprise ou lieu public, il y a un coût, mais après, l'énergie en elle-même est concurrentielle, par rapport au gaz et aux autres énergies que l'on connaît à l'heure actuelle.
Alors, je pense que cette réflexion, elle doit se faire entre le prix du consommable et le prix de l'investissement. Aujourd'hui, investir dans une chaudière bois, c'est beaucoup plus cher que d'investir dans une chaudière gaz. Par contre, la molécule de gaz mais beaucoup plus chère que la molécule de bois. Donc, c'est un équilibre qui doit se trouver entre le fonctionnement et l'investissement. Donc, si on prend l'investissement en bois et le fonctionnement en bois, eh bien, on doit réussir à atteindre un équilibre entre l'investissement en gaz et le fonctionnement en gaz. Sachant que dès qu'il y a une augmentation en gaz, eh bien, forcément, le prix du mégawattheure, il explose. Alors que le prix du bois, même si le bois augmente, par exemple, le prix du bois augmente, comme c'est une faible part du mégawattheure fourni, le prix de la molécule bois, eh bien, c'est vraiment peanuts par rapport à un prix du mégawattheure de gaz en référence, quoi. Aujourd'hui, si du bois vous coûte 30 euros le mégawattheure, le bois qu'on achète, eh bien, aujourd'hui, du fioul, c'est 90 euros le mégawattheure, l'électricité ou le propane, c'est 140, 150 euros le mégawattheure. Donc, je parle en prix molécule là, hein, mais c'est-à-dire que très vite, on arrive à faire des économies si jamais eh bien, on a des consommations qui permettent d'atténuer eh bien, le coût d'achat de ces chaudières. L'objet, c'est ça, c'est de réussir à atteindre cet équilibre.
D'accord. Donc, y a toutes les cartes en main. Il y a du bois ici à utiliser. Pour peu qu'il y ait une dynamique qui s'enclenche pour acheter des chaudières, donc le coût aussi des installations, etc., peut baisser. Donc, tout le monde peut s'y retrouver. Qu'est-ce qui manque pour mettre la machine en route?
Eh bien, c'est de réussir à atteindre cet équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donc des consommateurs, on a des consommations qui sont connues, mais on a aussi des consommateurs qui sont répartis sur le territoire. Si je prends l'exemple simplement d'un réseau de chaleur, qui sont répartis donc dans la ville. Si je prends ou l'hôpital de Mauléon avec la piscine de Mauléon, où on a donc deux gros consommateurs, eh bien, ils sont à l'opposé de la ville. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tirer un tuyau entre ces deux consommateurs, et ce tuyau coûte très cher. Voilà, donc il faut qu'on réussisse à trouver une solution technique, une solution avantageuse qui permette d'avoir le premier jour d'utilisation, eh bien, qu'on soit iso-coût avec les solutions qui sont en place, c'est-à-dire les solutions gaz. Et aujourd'hui, le gaz, je dirais, dans l'absolu, il serait pour l'instant pas encore suffisamment cher, même si dans les 10 dernières années, il a quand même pris 80% d'augmentation sur les 10 dernières années, quoi. Il suffit de peu de choses, hein. Il suffit d'une faible augmentation parfois pour que, eh bien, sur les solutions où c'était infaisable il y a à peu près un an et demi, eh bien, aujourd'hui, on sent poindre des faisabilités.
Compte tenu de l'avenir des énergies fossiles, on peut quand même penser que localement, ce type d'initiative peut avoir un avenir.
Alors vous pensez que moi je fais une veille quasiment quotidienne de ce qui peut se dire sur le gaz de schiste, de ce qui peut se dire sur les énergies fossiles classiques, et il y a une sorte de flou entretenu de manière à ce que on sache pas trop ce qui va se passer au niveau des comment je peux dire, aujourd'hui au niveau donc du prix des du gaz par exemple.
Quand même, on peut imaginer que les énergies fossiles par définition ne se renouvellent pas. Donc, par contre, des bois, oui.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Enfin, moi je parle toujours à l'instant T parce que j'ai pas de boule de cristal, et donc si aujourd'hui je compare des solutions, ce sont des solutions à l'instant T. Donc aujourd'hui, il nous manque un peu encore un petit delta sur le prix du gaz, mais il est bien évident que l'énergie fossile est amenée à disparaître, mais il y a aussi le fait qu'il y a des problèmes géopolitiques qui font que on n'a aucune assurance sur la continuité en termes d'approvisionnement. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine et autres. Mais néanmoins, sur la facture de gaz, il n'y a pas un coup franc qui ferait que ça serait évident de passer en énergie renouvelable immédiatement. Par contre, l'énergie renouvelable, c'est une énergie locale, c'est une énergie dans laquelle on a les coûts qui sont maîtrisés, c'est l'argent local qui reste en local, qui fait de l'emploi, qui en plus entretient les forêts. En tout cas, on a tout intérêt à être, c'est sûr, à être sur des énergies renouvelables. En 50 ans, un arbre repousse, donc avant de refaire du gaz, ça va être un peu compliqué.